VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 17h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. On commence par la Gambie. Le syndicat de la presse gambienne a protesté ce mardi contre l'agression de journalistes par des sympathisants du président Adama Barrow. Les précisions de John Lindon.
Keba Diéphane du journal privé Foroya a été prise à partie dimanche lors d'une conférence de presse à laquelle participaient notamment le ministre des Affaires étrangères Ousseynou Darboué et celui de l'Intérieur Maï Fati, selon des témoignages. Le journaliste dit avoir été agressé pour avoir posé une question sur un éventuel éclatement de la coalition formée autour du président Barrow à l'approche des élections législatives. Il a été frappé, puis sorti de la salle par un groupe de militants mécontents, selon son récit. L'attaque contre le journaliste Keba Diéphane du journal Foroya est une attaque contre la liberté d'expression, en particulier la liberté des médias, a déclaré Saïkou Djamé, secrétaire général du syndicat de la presse gambienne. Cet acte barbare et illégal n'a pas sa place dans une société démocratique. Nous le condamnons et appelons les responsables des partis politiques, dont les militants ont agressé le journaliste, à prendre les mesures appropriées pour régler cette question, a poursuivi Saïkou Djamé. Plusieurs journalistes ou militants ont dénoncé l'agression de Keba Diéphane. Beaucoup ont invité le président Barrow, élu à la présidentielle du 1er décembre face à Yahya Djamé, à éviter les travers de son prédécesseur.
En RDC, les autorités congolaises ont déclaré ce mardi avoir pris acte de la décision prise par la famille de l'opposant historique Étienne Tshisekedi de reporter le rapatriement de sa dépouille au pays natal à une date non encore fixée. Kinshasa maintient toutefois son offre de facilitation de l'inhumation sur le territoire national, a déclaré le porte-parole du gouvernement Lambert Mende. La loi congolaise prévoit que toute personne décédée soit enterrée dans un cimetière, à l'exception des évêques catholiques qui sont inhumés dans leur cathédrale et des chefs coutumiers ou toute autre personnalité sur décision expresse du Parlement. En RCA, progrès dans le processus de démobilisation, désarmement et réinsertion des ex-combattants, notamment dans la ville de Bria, dans le centre du pays. Près de 1000 anciens rebelles de la Séléka y sont engagés dans les activités du pré-DDR. Ils apprennent de nouveaux métiers et construisent des bâtiments à Bria. Et ça marche plutôt bien, nous dit notre correspondant sur place, Firiman Sipila.
Le projet pré-DDR est initié à Bria en octobre 2015 par la MINUSCA. Ici, les bénéficiaires perçoivent chaque deux semaines une somme plus ou moins à 30 000 francs CFA. Cette initiative a positivement impacté leur comportement. C'est ce qu'explique le superviseur.
Il y a beaucoup de changements. Il n'y a pas de braquage dans les quartiers. Il n'y a pas de banditisme. D'autres, ils sont concentrés seulement à cette activité.
Khadidia Catherine a combattu dans l'ex-rébellion de la Séléka avec cette activité de pré-DDR. Elle explique n'avoir plus l'envie de reprendre les armes.
Nous vivons mieux aujourd'hui. Nous avons décidé de déposer les armes pour retrouver la paix.
Chaque ex-combattant suivra des cours de son choix, notamment dans le domaine de la mécanique, de la menuiserie, de la maçonnerie, de la couture, de l'informatique ou encore de la création des activités génératrices de revenus. Freeman Sipila, Bria, VOA Afrique.
Crise humanitaire dans le bassin du lac Tchad. Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU vient de terminer une tournée de 4 jours dans la région où elle s'est rendue au Cameroun, Tchad, Niger et Nigeria. Que faut-il attendre maintenant de ses membres à leur retour à New York? La réponse du représentant permanent du Sénégal au Conseil de sécurité, Fodesek, au micro de la correspondante de la Voix de l'Amérique à l'ONU, Margaret Bichir.
On nous a posé la question, pourquoi le Conseil de sécurité refuse de prendre une résolution pour venir en appui à la task force régionale. J'ai dit, vous n'avez pas besoin de résolution parce que ce n'est pas une résolution qui vous a créé. C'est la détermination des pays de la sous-région de se mettre ensemble et de confronter ensemble ce problème. C'est ça qui va faire venir la communauté internationale. Et nous allons jouer notre partition en tant que membre du Conseil de sécurité pour que tout le système des Nations Unies, tous les partenaires techniques et financiers puissent venir en aide également à ce bassin de l'actuel.
Fodesek, représentant permanent du Sénégal à l'ONU. Conflit sud-soudanais, la Commission de l'ONU sur les droits de l'homme au Soudan du Sud réitère sa mise en garde contre le nettoyage ethnique et demande une enquête indépendante sur les crimes commis dans le pays. Le point avec Morgane Guéouyek.
Dans un rapport, les Nations Unies dénoncent une hausse massive de graves violations des droits de l'homme et de sévices au Soudan du Sud au cours des derniers mois. Selon elles, les actions du gouvernement, comme d'autres parties au conflit, suggèrent que des populations civiles sont délibérément visées sur la base de leur identité ethnique par le recours aux meurtres, enlèvements, viols et incendies de villages. Dans le document, qui doit être présenté au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève la semaine prochaine, les experts appellent les Nations Unies à ordonner une enquête impartiale, indépendante et internationale sur les crimes les plus graves, dont les violences sexuelles liées au conflit. Ils demandent également à l'Union africaine de contribuer à la création rapide d'un tribunal pour le Soudan du Sud, prévu dans un accord de paix de 2015, et que cette cour soit opérationnelle dans 6 à 9 mois.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Menace de famine en Somalie. Le secrétaire général de l'ONU exhorte la communauté internationale à se mobiliser massivement pour aider ce pays de la Corne de l'Afrique, sur lequel plane l'ombre d'une nouvelle famine. Il est possible d'éviter le pire, a déclaré aujourd'hui Antonio Guterres, après s'être entretenu à Mogadiscio avec le nouveau président somalien Mohamed Abdoulaye Mohamed, élu le 8 février. Nous avons besoin d'un soutien massif de la communauté internationale pour éviter une répétition des événements tragiques de 2011, a ajouté le numéro 1 de l'ONU. Les nouvelles autorités de la Somalie, pays en crise depuis 2 décennies, ont décrété fin février l'état de catastrophe nationale. Et les images de corps émaciés commencent à émerger dans les médias, faisant ressurgir le spectre de la famine de 2011 qui avait fait 260 000 morts. Actualité aux États-Unis maintenant, le président Donald Trump a signé un nouveau décret sur l'immigration, révisant et annulant le précédent document sur le même sujet qui était plutôt controversé. Un décret qui avait d'ailleurs été suspendu par un juge de Seattle dans l'État de Washington. Plusieurs changements notables à signaler dans le nouveau décret, mais a-t-il lui aussi quand même des chances d'être contesté? La réponse du professeur Jean-Germain Gros de l'Université du Missouri, joint par Abdourahman Dia.
Quand on regarde le nouveau décret, on peut signaler quelques changements qui peuvent quand même assouplir l'opposition. Premièrement, l'Irak ne fait plus partie de la liste des pays. Maintenant, la liste revient à 6. Deuxièmement, il y a un délai de 10 jours. Donc le décret ne sera pas appliqué avant 10 jours. Troisièmement, le décret exclut les personnes ayant la carte verte. Et peut-être le plus important, c'est que le nouveau décret élimine l'ancien décret. Ça va rendre l'opposition, je pense, un peu plus calme. Mais ça ne veut pas dire forcément que l'opposition va accepter le nouveau décret.
Les détracteurs de ce projet remettent en cause, en fait, l'argument de la lutte contre le terrorisme, disant que la plupart des extrémistes, en fait, se sont radicalisés ici, aux États-Unis.
Oui, et ensuite, les 6 pays qui sont visés par le décret, leurs nationaux n'ont pas commis de crimes d'attaque terroriste sur le sol américain.
Mais c'est tout de même un décret qui va satisfaire sa base. Vous êtes dans le Missouri, j'imagine que c'est un décret qui est bien accueilli dans des États comme le Missouri.
Oui, le vrai dessin de ce décret, c'est un dessein politique. C'est une façon pour M. Trump de satisfaire une promesse électorale. Donc on peut dire que l'objectif principal du décret n'est pas de stopper le terrorisme.
Alors, il y a 3 pays africains sur cette liste, mais on n'entend pas beaucoup l'Union africaine, par exemple, sur cette question. Comment est-ce que vous interprétez cela?
Bon, ce n'est pas du tout surprenant. Vous savez que l'Union africaine, de presque toutes les choses qui concernent l'Afrique, eh bien, généralement joue un rôle marginal. Vous vous souvenez de l'Ebola. Donc, cela reflète encore une fois les faiblesses des pays africains dans le système étatique international.
Le professeur Germain Gros, professeur à l'Université du Missouri, ici aux États-Unis. Réaction du Soudan, Khartoum a exprimé aujourd'hui son mécontentement après la signature par le président Trump de la nouvelle version du décret migratoire interdisant par 90 jours l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de 6 pays musulmans, dont les Soudanais. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.